Parmi les plus beaux au Québec. Fairway impeccable, panorama spectaculaire et une atmosphère qui donne envie de prolonger la journée. Hébergement, spa, activités nautiques, jelly ball, tout est là pour en faire une vraie escapade. Réservez votre ronde dès maintenant au experiencemata.ca.
Alors, ton latte au lait d'avoine extra chaud mais pas brûlant avec 4 doses de caramel format petit, ça va prendre 10 minutes.
Pas de stress, je m'amuse sur Playojo. Et le plaisir continue avec des machines à sous et des jeux de casino gratuits, y compris des favoris comme Big Bass Bonanza et Wolf Gold.
Voilà, ton latte au lait d'avoine extra chaud mais pas brûlant.
Merci, la peau au jeu est terminée. Délicieux.
Sentir le plaisir, Playojo.
Ouvert aux personnes de 18 ans et plus. Il ne s'agit pas d'un site de jeu d'argent. Jouer de façon responsable.
La rentrée, c'est souvent compliqué. Ce qui devrait toujours être simple, c'est d'être bien assuré. Gagnez en assurance en passant à Sonnet pour vos assurances habitation et auto. Vous pourriez économiser plus de 800 $. Sonnet.ca. Simple comme ça.
À Montréal, toujours live sur le YouTube de BPM. 100% sport. Dans une ville où le hockey domine, une seule radio soulève la coupe jour après jour. Le phénomène BPM. Pendant que toutes les autres stations te parlent de ce qui va mal, ici, c'est 100% sport. Avec toujours plus d'opinions, plus de débats, plus de fun. Toujours la radio de sport numéro 1 au Canada. 91.9 BPM Sport. Partout au Québec et toujours live sur le YouTube de BPM, t'écoutes le Club du Matin. They wanna get mine. Fais partie du Club de Montréal. 514-790-0919. 1-888-790-0919. T'écoutes le Club du Matin.
Le Club! Bon mardi tout le monde, bienvenue dans une autre belle édition du Club du Matin. Olivier Paiement avec vous pour les 4 prochaines heures. Merci d'être à l'écoute. Peu importe où vous êtes, peu importe de où vous nous écoutez, de Montréal au 91.9, Québec 100.9, Gatineau 96.5, sur l'application mobile de BPM Sport ou encore sur notre diffusion en direct sur YouTube. Et comme à l'habitude, je suis accompagné par mon acolyte Hugo Reich. Comment ça va, Hugo?
Salut Ali, ça va bien, toi?
Ça va bien, je suis content d'entendre que ta voix se porte mieux, mon cher.
Ouais, hein, mais pour vrai,
t'as pas eu recours aux fusées, là.
Non, pas eu recours aux fusées. Personne n'a décollé, rien n'a décollé hier. C'était vraiment correct. Puis, je suis bien content d'avoir une voix
normale.
Soyeuse. Ce matin.
Soyeuse.
On va essayer.
Gros show pour vous aujourd'hui, comme à l'habitude. On a pas mal de sujets, plein de sports différents dont on va aborder aujourd'hui. Je veux qu'on se penche parce que ce sera bientôt les 5 ans de Kent Hughes à la barre du Canadien de Montréal. Il y a un texte qui a été paru dans les derniers jours et je veux qu'on réagisse face à ça. On va poursuivre nos prédictions pour les différentes divisions dans la NFL et aujourd'hui, on va analyser ma division préférée. La meilleure division dans toute la NFL, le nord de l'américaine, une division qui, année après année, est remplie de rebondissements, toujours du bon football qui se joue là. Dans le baseball majeur, ça se corse dans la course aux séries, mais aussi dans la course pour le titre de MVP dans la nationale. Shohei Ohtani et Pete Crow Armstrong qui ont encore une fois offert des performances fantastiques hier, on va en parler. Différentes cibles potentiellement pour le Canadien sur le marché des échanges, parce que oui, depuis le début de l'été, on mentionne plusieurs noms. Mais là, dans les derniers jours, dans les dernières semaines, il y a d'autres joueurs qui ont commencé à être mentionnés de plus en plus dans le cercle des rumeurs de transactions. Est-ce que ce sont des options potentielles pour le Canadien? Ça va s'en venir dans environ 1h20. Et plus tard à l'émission aussi, vous avez aimé ça quand on l'a fait la semaine passée. Et si c'était à refaire le repêchage, on avait fait 2005, eh bien là aujourd'hui, on retourne à il y a 20 ans, on va refaire le repêchage de 2006, une cuvée très intéressante. Honnêtement, c'est dur à dire quelle direction est-ce que ce redraft-là va prendre parce que t'as plusieurs bons joueurs, mais t'en as pas nécessairement une tonne qui se démarque en particulier. C'est beaucoup de joueurs qui ont eu des carrières quand même assez similaires. Fait que je pense que ça va donner de quoi de super intéressant. Plusieurs invités, notamment Nicolas Saint-Pierre, comme à l'habitude, qui va faire son tour à l'émission. Nick, là, il a le goût que ça brasse aujourd'hui. Il va y aller de quelques prédictions osées en vue de la prochaine saison dans la LNH. On va aussi parler de basketball avec Charles Dubé-Bret, ancien coach notamment dans l'organisation de l'Alliance de Montréal, il a coaché en Europe, il a coaché en Asie, il a aussi coaché dans l'organisation des Raptors de Toronto, des Spurs de San Antonio. Hier, on pensait avoir eu un dénouement dans la saga Kawhi Leonard. Est-ce qu'on en a eu un? C'est pas trop clair. ESPN dit une chose, la NBA dit que c'est pas vrai, les Clippers aussi, ils tiennent mordicus à leur point de vue. Qu'est-ce qui va se passer de tout ça? Ben, j'ai hâte d'en parler avec Charles Dubé-Bret un peu plus tard. On va parler aussi de d'autres sujets basketball, notamment LeBron James avec les 76ers. Ça va-tu marcher, cette histoire-là? Giannis Antetokounmpo avec le Heat de Miami, ça a brassé pas mal cet été dans la NBA. J'ai hâte d'en parler avec Charles dans environ une heure et demie. Jean-Sébastien D va faire son tour dans le bureau des commissaires. On va regarder les différentes luttes au camp du Canadien. Il y a quelques postes qui sont ouverts en ce moment. Deuxième centre, ailier de deuxième trio, sixième défenseur, deuxième gardien. Qui va être capable de ravir ce poste-là au camp? Ben, GS va se mouiller un peu plus tard, dans deux heures environ. On va aussi avoir des invités spéciaux. Deux invités spéciaux qui vont se joindre à nous. Deux jeunes gars vraiment, vraiment talentueux. Michael Evé et Jules Régimbald. Leur nom vous dit peut-être pas de quoi, mais vous connaissez peut-être leur page sur les réseaux sociaux L'Esprit Sportif, qui dans les dernières années s'est démarqué comme étant la référence pour le sport étudiant au Québec, que ce soit universitaire, collégial, secondaire, le recrutement universitaire aux États-Unis, le flag football, c'est gros ce que ces gars-là sont en train de bâtir. J'ai hâte de leur poser des questions. Comment est-ce que vous avez eu l'idée derrière tout ça? Comment est-ce que ce projet-là est né? On va aussi mettre la table, notamment pour la prochaine saison, dans le football universitaire québécois. Et Marco D'Amico aussi, comme à l'habitude, le mardi, qui va venir faire son tour dans le club du matin. Passez une bonne journée hier, Hugo.
Oui, superbe journée hier. J'ai fait du vélo pour la première fois avec mon nouveau vélo.
Comment ça s'est passé?
Ça s'est super bien passé. J'aime beaucoup, beaucoup mon nouveau vélo. Je suis très content. Dans le coin de Sainte-Julie. Écoute, Sainte-Julie, il y a des belles pistes cyclables. Tu bord des champs, là, dans le coin de Saint-Amand, Belleuil, tout ça. Donc, j'ai fait un genre de 15 km hier. C'était vraiment, vraiment bien. Agréablement surpris de la vitesse à laquelle je roulais, de mon cardio. J'avais très peur pour mon cardio au début.
Mais ça, c'est la magie des clips.
Oui, c'est ça, exactement. Mais ça a super bien été. Voilà, période d'adaptation pour tous les nouveaux cyclistes. Faites-en de plus en plus. C'est le meilleur truc que j'ai à vous donner. Je vais retourner aujourd'hui, c'est sûr et certain. Je pense que c'est important d'être en symbiose avec son vélo. Et c'est ce que je planifie faire dans les prochains jours.
Là, la question que tout le monde se pose, Hugo, je viens de recevoir, je pense, une quinzaine de messages. T'as-tu mis ton saut de cycliste?
J'ai mis les culottes.
C'est pas des one des one piece?
Non, mais il y en a des one piece, il y en a des two piece. Moi, j'ai juste mis les culottes, je vais m'adapter avec ça. C'était la première fois que j'en faisais avec ça, puis je voulais pas faire une grosse distance, fait que je savais que l'aérodynamisme n'était pas de mise là, pas encore à ce point là. Mais ça s'en vient.
Il va falloir que tu nous partages des photos quand
c'est
ça arrive.
C'est sûr et certain qu'il va avoir une photo qui va sortir, Ali, ça va me faire plaisir.
Ah, j'ai vraiment hâte de voir ça. Comme j'adore voir les vidéos de tout le monde qui fait du vélo, là, ça fait partie de mes plaisirs dans la vie.
Toi, t'as-tu passé une belle journée hier?
Ouais, une belle journée bien relax. Je suis allé porter ma blonde parce qu'elle m'abandonne encore. Elle s'en va sur la côte nord. Wow, Rave Saint-Pierre. Elle s'en va rejoindre son père qui est là-bas. Elle va passer quelques jours là-bas, fait qu'elle m'abandonne. Mais vraiment un beau coin. J'y suis allé il y a quelques années pour la première fois. C'est magnifique, sérieux. Des paysans, tu sais, quand tu viens de Montréal, quand t'es un gars urbain comme moi, tu débarques, puis c'est pas juste la campagne, c'est pas juste la région, là. Tu sais, c'est... Écoute, tu dois faire 45 minutes de route d'un village à l'autre. Fait que c'est loin, mais c'est vaste, c'est magnifique. Fait que je suis content pour elle, j'ai hâte qu'elle me raconte tout ça quand elle revient.
Ben oui.
Mais tu sais quoi, Hugo, il faut commencer l'émission parce que ça part pour l'édition du 18 août 2026 dans le Club du Matin. Alors, j'ai vu un texte passer dans les derniers jours que j'ai trouvé fort intéressant. C'est Stu Cowan, journaliste affecté à la couverture du Canadien dans la Gazette, qui a commencé à se pencher sur le bilan de Kent Hughes, parce que déjà, c'est fou à quel point ça passe vite, mais on approche déjà le 5 ans de bilan pour Kent Hughes avec le Canadien de Montréal. Il avait été embauché, rappelez-vous, à l'hiver 2022, autour du mois de janvier, si je ne me trompe pas. Alors, Stu Cowan a commencé à regarder, OK, ben c'est quoi le bilan de Kent Hughes? Parce que Évidemment, pour un DG, ça prend du temps. C'est pas du jour au lendemain qu'on peut vraiment analyser ton travail. Est-ce que ça se passe bien? Est-ce que ça se passe pas bien? Mais après 5 ans, on a une solide idée de ton boulot. T'es-tu un bon DG? Ça s'en va-tu dans la bonne direction, ton affaire, ou pas tant? Alors, il a commencé à analyser ça et je veux faire le tour, notre propre analyse par rapport à ça aujourd'hui. Rappelez-vous quand même, il y a 5 ans, là, le Canadien croupissait dans les bas-fonds du classement de la LNH. C'était la dernière équipe au classement quand Kent Hughes est arrivé en poste, évidemment pour terminer l'année aussi, mais il n'y avait pas grand-chose à faire par rapport à ça. Depuis, 52 transactions, 47 sélections au repêchage et 95 contrats octroyés. Je veux qu'on regarde, ça a été quoi? Les bons coups et les moins bons coups de Kent Hughes. On va commencer avec les transactions. Selon moi, la meilleure transaction de Kent Hughes est celle de Mike Madison. Rappelez-vous, Jeff Petrie ne voulait plus rien savoir de Montréal. Lui, sa femme, il était tanné, il voulait partir. Fait que là, Kent Hughes était un petit peu mal pris. C'était un bon défenseur, Jeff Petrie. Il n'avait pas le choix de l'échanger. Anyway, l'équipe était en reconstruction. C'était le genre de joueur dont tu voulais te départir. Ryan Poehling était aussi un espoir qui décevait. Ne se développait pas vraiment comme prévu. Incapable de s'établir dans la LNH. Il les envoie à Pittsburgh et en retour, il met la main sur Mike Madison et un choix de quatrième tour. À l'époque, on était plusieurs à sourciller par rapport à ça parce que Madison, ça se passait pas nécessairement super bien avec les Penguins de Pittsburgh. C'est quelqu'un qui avait reçu quand même un gros contrat, avait une grosse étiquette, mais pas la meilleure réputation. Et là, rapidement, on a réalisé que cette transaction-là, c'était un coup de circuit. Il est devenu le défenseur le plus utilisé chez le Canadien de Montréal, un gars qui a autant joué sur la première vague de l'avantage numérique quand il est arrivé, que là, c'est un gars peut-être un peu plus défensif. Il joue en infériorité numérique, affronte les meilleurs trios adverses, joue du 22, 23, 24 minutes par match. Un Québécois, un gars qui parle français, qui a pas peur d'affronter les médias et de dire sa façon de penser après les matchs du Canadien de Montréal. Cette transaction-là, elle a été un coup de circuit, surtout que de l'autre côté, ça n'a rien donné à Pittsburgh, Jeff Petrie et Ryan Poehling.
Non, exactement. Et puis, Kent Hughes a décidé de prendre une chance sur un gars, justement, qui était critiqué pour le fait qu'il faisait beaucoup de revirements, le fait qu'il n'avait peut-être pas une certaine maturité dans son jeu, ce qui faisait en sorte que ça a moins bien marché autant avec les Panthers, c'était des Pingouins. Et Mike Matheson, lorsqu'il est arrivé à Montréal, a vraiment été capable de rendre son jeu très complet. Et ça a été la plus grande qualité de son développement. Par la suite, il est devenu une fiabilité, comme tu l'as dit. Et ça, c'est probablement le meilleur résultat, si tu veux, d'une transaction. C'était plat parce que on a pris un Jeff Petrie qui était quand même aimé ici, néanmoins.
Plus à la fin, par
plus à la fin. À la fin, c'était difficile.
À la fin, je dirais même qu'il était détesté.
Ouais, ouais. À la fin, c'était difficile. Mais qui avait donné quand même beaucoup pour l'organisation. Et finalement, on a juste profité du fait que sa valeur était en déclin pour rapatrier quelque chose de très beau. C'est ça que Kent Hughes a réussi à faire avec Mike Matheson. Et là, regardez-le aujourd'hui.
Puis il a pris une chance pareil, parce que c'était pas le gars qui avait la meilleure réputation, mais Kent Hughes le connaissait. C'était son ancien agent, il le connaissait depuis des années. Lui, il savait que Mike Matheson était capable de jouer du meilleur hockey que ça. Il a misé là-dessus. Puis je pense qu'une autre chose où il faut donner crédit à Madison, c'est son attitude aussi. Écoute, le gars, il y a 2 ans, là, 2023-2024, 62 points en 82 matchs, jouait sur la première vague du jeu de puissance. C'était le corps arrière de la brigade défensive du Canadien de Montréal. Ben, Lane Hutson débarque, le tasse de la première vague. Éventuellement, t'as un Noah Dobson qui arrive aussi. Il joue plus du tout sur l'avantage numérique. Mike Madison a perdu des millions de dollars à cause de ça.
Ouais.
Il a signé pour 6 millions de dollars par année. S'il avait continué de jouer sur l'attaque à 5 du Canadien de Montréal, il aurait signé pour 7, 8, 9 millions de dollars par année. Vous avez vu les contrats qui se sont signés cet été. Il n'a rien dit. Il a accepté son nouveau rôle et il en a même signé un autre avec le Canadien. Pour moi, ça montre quel genre de gars il est. Si on regarde les autres bonnes transactions, il y en a plusieurs qui nous l'ont noté, Stéphane notamment, celle de Sean Monahan. Ça aussi, ça a été tout un coup. Et ce qui est impressionnant avec celle de Monahan, c'est qu'elle représente parfaitement le flair de Kent Hughes. Sa compréhension de la Ligue nationale de hockey, de la convention collective. Les Flames voulaient se débarrasser de Sean Monahan. Ils le voulaient plus parce qu'il y avait un gros contrat. OK, ben vous allez nous donner un choix de premier tour. Ce choix de premier tour-là que les Flames ont donné avec Monahan. Le Canadien n'a rien donné pour l'avoir. Ils se sont fait donner un choix de première ronde et Monahan. Ils l'ont flippé par la suite pour mettre la main sur Noah Dobson. Monahan, qui a quand même eu un bon impact à Montréal, a été un vétéran important. Ils l'ont même re-signé par la suite. Puis là, la date limite des échanges en 2024, tu l'échanges aux Jets. Encore une fois, pour un choix de premier tour. Ce choix de premier tour-là, tu l'as utilisé pour grimper au repêchage et repêcher un certain Michael Hage. Bref, t'as rien donné. Puis t'as eu un vétéran qui a fait la job pendant un an et demi. Et ça t'a permis de mettre la main avec autre chose, là, mais quand même sur Noah Dobson et Michael Hage. C'est pas n'importe quel DG qui aurait pensé à faire ces manœuvres-là.
Non, exactement. Puis encore une fois, Kent Hughes, très opportuniste. Et au final, qu'est-ce que ça l'a donné, ça, Oli? Ben, son passage avec les Canadiens a relancé la carrière à Sean Monahan.
Oui, vraiment. Parce que ça aussi, c'était un risque, là.
Ouais, exactement.
Les blessures, ça allait pas bien pour Monahan.
Exactement. Il avait vraiment trouvé le fond du baril à Calgary. Mais finalement, a retrouvé quand même un rythme qui était proche du point par match. 17 points en 25 matchs à sa première année avec les Canadiens. 35 en 49 à sa deuxième. Et ensuite, si tu regardes un peu plus loin, sa première année avec les Blue Jackets, 57 en 54. Ça a été un peu plus difficile l'année dernière, mais avait quand même réussi à retrouver un rythme offensif intéressant, ce qui a bénéficié au final aux Canadiens dans ce court échantillon-là et qui a permis d'établir les bases pour les jeunes joueurs qui sont maintenant les jeunes leaders du club.
Très bien dit. Une autre transaction, puis celle-là, je pense qu'on peut la qualifier de vol. C'est pas à tous les jours que tu échanges un gars qui appartient probablement même pas à la LNH pour un solide défenseur. Alexandre Carrier, qui a été échangé en retour de Justin Barron. Barron qui... Ben, chapeau à Kent Hughes d'avoir admis son erreur. C'était peut-être pas le meilleur move dans la transaction Lekkonen. C'est pas développé comme prévu comme Barron, mais accepte de pivoter rapidement, d'admettre son erreur, échange Justin Barron pendant qu'il a encore une certaine valeur et tu mets la main sur Alex Carrier, qui est un vétéran, qui a prouvé qu'il appartient à la Ligue, qui est capable d'être responsable défensivement, d'affronter des bons attaquants de l'autre côté, va jouer en infériorité numérique, bloque des tirs, un soldat parfait pour Barron, qui, je le sais, qu'il joue là, à Nashville, mais on s'entend, rien de très impressionnant. Ça, c'est un vol. Un pour un, comme ça, c'est incroyable.
Ouais, puis encore une fois, ce qui me fait le plus capoter dans le travail de Kent Hughes, c'est vraiment son sens du timing, parce que Alexandre Carrier est arrivé dans la formation à un moment où il fallait une certaine stabilité à la ligne bleue. Et du moment où il est arrivé...
Il n'y avait pas de droitier, c'est
Il
n'y
avait
vrai.
Pas de droitier. Et du moment où il est arrivé, immédiatement, il y a eu un impact. Mais immédiatement, le Canadien s'est amélioré défensivement.
Ouais.
Oui, c'est un vétéran. Oui, il était établi. Mais il a amené un certain calme aussi à la brigade défensive du Canadien. Ce qui a permis à l'équipe, au final, d'être plus structuré, d'être meilleur à la ligne bleue, d'être meilleur pour fermer les espaces et de faire une poussée pour les séries éliminatoires.
Exactement.
C'est ça qui est arrivé.
Le Canadien fait peut-être pas les séries si t'as pas un Alex Carrier qui stabilise le côté droit de la ligne bleue. Ça fait vraiment partie des revirements qui ont complètement changé la donne pendant la saison du Canadien. Il y a deux ans, dernière mention honorable. Excellente transaction, mais c'est un peu différent parce que c'est plus le choix au repêchage que t'as obtenu que donner quelque chose de formidable. Mais Brett Kulak, qui avait été échangé aux Oilers d'Edmonton en retour d'un choix de 2 et d'un choix de 7. Il y a aussi un certain William Lagesson, mais bon, il ne fait que passer à Montréal. Mais ce fameux choix de deuxième tour-là est devenu Lane Hudson. Un choix incroyable. C'est juste que, tu sais, au moment où il a fait son acquisition, il pouvait pas savoir que Hudson allait être disponible. Même t'arrives au repêchage, tu te doutes pas qu'un talent comme Lane Hudson va glisser si tard que ça, mais chapeau à eux de quand même l'avoir choisi. Inquiétez-vous pas, ça va arriver un peu plus tard. Quand on va parler du meilleur choix au repêchage, je me doute que Lane Hudson risque de faire partie de la discussion.
Ouais.
Si on y va avec la pire transaction, je fouillais là, dans l'historique de Kent Hughes, puis c'est dur de trouver vraiment des mauvaises transactions.
C'est vrai.
Il n'y en a pas eu beaucoup où il s'est fait avoir. La plus difficile, peut-être, celle qui a le moins bien vieilli, c'est Kirby Dach.
Ouais.
Une de ses premières grosses transactions au repêchage en 2022 à Montréal, le Canadien qui met la main sur Kirby Dach, le Canadien qui avait donné Alexander Romanov pour le 13e choix au total. On a ensuite flippé ce 13e choix au total-là aux Blackhawks pour mettre la main sur Kirby Dach, qui est aussi un choix de 3 et un choix de 4 qui ont été donnés dans cet échange-là. On en parle souvent, là. Fait que j'en rajouterai pas. Mais Dach, c'est catastrophique depuis son année à Montréal. Sur un rythme de 82 matchs, il joue en moyenne 38 matchs et demi par année pour le Canadien. Là, je parle même pas de son jeu inconstant. Je parle même pas du fait que, des fois, il manque d'effort sur la patinoire qui est invisible. Je parle même pas de ça. À l'opposé, Romanov est devenu un bon défenseur quand même avec les Islanders de New York, un gars qui peut jouer 20, 21, 22 minutes par match. Il est physique, hargneux. C'est peut-être, en plus, il était capable de jouer à droite, Romanov.
Exact,
c'est peut-être
les deux.
Le gars qu'on aurait eu besoin en ce moment là, pour jouer sur la troisième paire, parce qu'on s'entend que c'est quelqu'un qui est nettement supérieur à Jack Eye, à Struble, etc. À l'opposé, le 13e choix, ben c'est quand même, ça a été utilisé par les Blackhawks pour repêcher un certain Frank Nazar, qui est un solide joueur de hockey, bien meilleur que Kirby Dach. Frank Nazar, c'était quand même 41 points en 66 matchs la saison passée. Il risque de devenir un joueur de deuxième trio bien correct dans la LNH. Quelques autres joueurs qui étaient aussi disponibles au 13e rang à cet encan-là, juste pour vous donner une idée, Rutger McGuirty, Noah Östlund, Liam Bixell, qui est en train de devenir un très très bon défenseur, format géant avec les Stars de Dallas. Tu sais, même avec le recul, je me dis, c'était la chose à faire. C'était un coup que tu devais essayer. Ouais. Le potentiel était là avec Kirby Dach. On était juste 3 ans remis après son repêchage.
Exact, exact.
Mais ça a raté. Fait que, ça fait partie de la game. Tu réussis tes transactions, t'en rates. Avec le recul, c'est sûr qu'il la ferait pas, mais faut que tu t'essayes sur des coups comme ça, puis on peut pas lui reprocher ça.
Ouais, exactement. On voulait une certaine bougie d'allumage. Kirby Dach aurait pu être ça. Encore une fois, au choix, au repêchage, un gars qui était rempli de talent. Tu sais, c'est... au moment de la transaction, Kirby Dach était encore bien vu là, dans la Ligue nationale. On était content de faire son acquisition, puis au final, la première saison qu'il a donnée à Montréal, et il jouait un peu à la hauteur du potentiel qu'on lui attribuait. Finalement, ça n'a pas donné ça, les blessures, les malchances, l'inconstance, mais comme tu l'as dit, Ali, il faut prendre des chances dans la vie. Alexander Romanov, oui, est un défenseur stable, un défenseur qui pouvait jouer des minutes top 4, même première paire pour dépanner, mais je sais pas si tu te souviens, mais à la fin aussi, il y avait des enjeux de blessure aussi. Les Islanders ont eu des problèmes de blessure avec lui.
Ouais, il a été blessé la saison passée. Moins que Dach, là.
Moins que Dach, ça c'est vrai.
Ça c'est sûr, mais c'est vrai que c'est quand même quelqu'un qui a un certain historique de blessure, Romanov.
Mais au moment de la transaction, ça s'équivalait. C'est pour ça, je pense, que Kent Hughes aussi a fait cette transaction-là, parce que au final, il risque rien.
Si tu regardes dans la carrière à Romanov, il a joué 15 matchs la saison passée. Avant ça, c'était 64, 81, 76, 79, puis 54. C'était en 56 cette année-là, mais c'est quand même quelqu'un qui rate des rencontres aussi, mais avec son style de jeu physique, il faut s'y attendre.
Exact.
Puis je vous dis, à part de ça, c'est difficile de trouver vraiment de mauvaises transactions. On pourrait peut-être mentionner celle d'Arturi Lehkonen, où, bon, t'échanges Lehkonen, il s'apprêtait à devenir joueur autonome, mais avec compensation, fait qu'il est encore sous le contrôle de l'équipe. En retour, le Canadien a obtenu Justin Barron et un choix de 2 qui a ensuite été utilisé dans la transaction pour grimper au repêchage et aller chercher Michael Hage. Au moins, il a été capable de se revirer rapidement et d'échanger Barron pour Carrier. Tu sais, Carrier pour Lehkonen, ça paraît moins mal.
Exact.
Je pense que je prendrais quand même Lehkonen dans mon club avant Carrier, parce que c'est un gars d'une cinquantaine de points par année. Il a marqué des gros buts aussi avec l'Avalanche du Colorado. Mais ça aussi, quand t'es en reconstruction, tu sais, t'échanges tes joueurs pour des espoirs, pour des choix. Il y en a qui marchent, il y en a qui marchent un peu moins. On pourrait dire peut-être aussi la même chose de la transaction Ben Sherratt.
Ouais.
Où on a échangé Ben Sherratt aux Panthers, puis en retour, tu regardes le Canadien, un peu eu grand-chose. Tyce Melanick, un choix de 4. Un choix de premier tour qui a ensuite été reflippé pour aller chercher Alex Newhook. Fait que ça, c'est quand même pas si mal. Mais tu sais, à part de ça, tu regardes le bilan, puis pas raté beaucoup d'autres échanges, là.
Non, pas vraiment. Et même là, encore une fois, on essayait d'aller chercher un gars qui était plus jeune, tu sais, dans la ligne directrice de la reconstruction, en Justin Barron. Puis, tu l'as dit, je trouve que le point le plus important là-dedans, c'est qu'on n'a pas perdu de temps quand on voyait que Barron plafonnait.
C'est ça.
Ça a été vraiment, le point tournant.
T'as raison, Hugo, que, disons, un DG un peu plus bête, un peu plus têtu, aurait essayé de forcer les choses puis de dire non, regarde, j'ai donné Lekkonen pour lui, je veux que ça marche avec Byron.
Ben ouais.
Puis là, plus tu le gardes longtemps, plus ça se passe pas comme prévu, ben là, plus Byron finit par perdre de la valeur. Mais non, il était capable de trouver un partenaire qui, rapidement, lui, il croyait encore en Byron, puis t'allais chercher Alexandre Carrier. Écoute, c'est pas une transaction sexy.
Non.
Mais c'est le genre de transaction là,
ben, qu'il fallait faire.
Qu'il fallait faire.
Parce que sinon, on aurait probablement eu la même conversation qu'on a à propos de Kirby Dart en ce moment. T'sais, Justin Barron est encore dans une forme du Canadien de Montréal.
Ouais. Qu'est-ce qu'il fait là encore? Là?
Exact.
Puis Gilbert, il disait souvent là, dans le cas de Justin Barron, quand t'es un joueur dans l'LNH, quand t'es un défenseur, faut que t'aies au moins une qualité que t'as de spécial.
Exact.
Je pense que dans le cas d'Alexandre Carrier, on pourrait dire que c'est vraiment quelqu'un qui joue avec énormément de courage, avec énormément d'intensité. Il y a cette qualité-là.
Il joue Alexandre gros Carrier, pour son gabarit.
Il joue gros pour son gabarit, il a du cœur. Justin Barron, c'est quoi? Okay. Un bon patineur, mais rien d'exceptionnel non plus.
Non.
Il n'y a pas un lancer fracassant.
Non.
Il n'y a pas une vision incroyable. Il n'est pas particulièrement physique. Fait que, tu sais, il est capable de jouer dans la LNH à cause de son coup de patin. Est-ce qu'il a un impact? Pas vraiment.
Exact.
Puis, honnêtement, je suis quasiment tombé en bas de ma chaise en regardant ça, mais tu regardes toutes les transactions de Kent Hughes et c'est très rare qu'il en perd une. Oui, il y en a qui ont peut-être mieux vieilli que d'autres, mais en ce moment, là, à part Kirby Dack, il n'y en a pas une où tu peux dire « Hey, il s'est fait avoir sur celle-là. »
C'est ça, exactement. Puis c'est, encore une fois, son talent de négociateur, son talent d'agent vient l'aider grandement dans des situations comme ça parce qu'il est capable tout le temps de faire ressortir le mieux pour son équipe. Et c'est la raison pourquoi le Canadien a connu une reconstruction si courte, Ali.
Mm-hmm.
Tu sais, si on était à prendre dans la prise de risque, dans essayer des choses, ben peut-être qu'on aurait pu être dans les fins fonds de la Ligue nationale pendant quelques années encore, là.
Tu vois, François, j'y avais pas pensé à celle-là, mais c'est un bon point. Il nous parle peut-être de Jonathan Kovacevic, qui a été échangé, puis tu regardes la formation du Canadien aujourd'hui, puis tu te dis Kovacevic, ben c'est peut-être exactement ça dont on aurait besoin. Un gros défenseur droitier pour jouer sur une troisième paire. En même temps, il faut remonter. Dans ce temps-là, ben Kovacevic, il s'inscrivait dans ce groupe de jeunes défenseurs avec le Canadien, qu'il y en avait plusieurs qui se battaient pour le même poste. Barron et Mayhew étaient encore là, c'était des droitiers eux aussi, on voulait leur donner plus de place pour se développer. T'avais Jack Eye, t'avais Hudson qui allait s'amener, Kaelin Gooley prenait encore plus de place. Alors c'est vrai que Kovacevic, tu sais, aujourd'hui je le prendrais dans mon club parce que vraiment ça se passe bien avec les Devils depuis qu'il est là, Jonathan Kovacevic. Puis t'as seulement eu un choix de quatrième tour en retour de lui. Quand tes pires transactions, c'est Kovacevic puis Kirby Dach, c'est vraiment pas ça la va. Fin du monde. Fait regarde, on en était plus qu'on pensait. On va te garder le reste pour demain. Ça a été quoi sa meilleure sélection au repêchage? Sa pire sélection, le meilleur contrat, le pire contrat. On va terminer cette analyse-là demain avec le bilan de 5 années de Kent Hughes. Mais avant, on va prendre une pause et au retour, c'est le Focus NFL. On poursuit notre survol des divisions et aujourd'hui, on donne nos prédictions pour le nord de l'Américaine, la meilleure division dans le football. Qui va la gagner cette année? Les Ravens, est-ce qu'ils vont rebondir? Est-ce que les Bengals vont enfin faire les éliminatoires? Ça s'en vient dans 2 minutes.
On l'a attendu tout l'été.
Là, le CH devrait bouger bientôt. On attend l'acquisition du Canadien. Ça risque d'être gros.
Le fameux move de Kent Hughes.
Salut Kent, c'est Gilbert. Tabaslac, écoute, nous autres à BPM, on est plus capables d'attendre, là. Peu à peu près, on y va. Nous autres, on move.
Dès le 31 août, ton starting line-up de retour. Deso, Marcotte, Gilbert, Georges, Gonzo, Greg, Ben, Max, FX, Oli et le CH. Prêt à nous redonner des frissons comme la dernière saison.
Suzuki. On va la Suzuki. A step. The puck. Shot. Score! Le tir. Et le but! Victoire des Canadiens! Alex Newhook propulse le CH en finale de l'Association de l'Est!
Dès
le 31 août. Pendant que toutes les autres stations vont parler de politique.
Voilà que tout le monde vote.
Mon droit de vote.
Moi, je vote.
BPM a déjà gagné ton vote.
Moi, je choisis.
La seule radio à pas jouer la cassette.
Moi, je choisis.
La seule radio avec plus d'opinions, plus de débats, plus de CH, plus de fun.
En tout cas, moi, je vote BPM.
BPM.
Vous avez profité du week-end pour faire le tour des festivals de la région. Mais aujourd'hui, la Corolla vous aide à enchaîner les arrêts pour faire la tournée des courses. La Toyota Corolla, une performance qui s'accorde à votre quotidien. C'est l'heure de conduire la vôtre, c'est l'heure Toyota. Profitez du retour de la Corolla chez vos concessionnaires. Visitez htmatoyota.ca ou votre concessionnaire Toyota du Québec aujourd'hui.
Expérience Mata transforme le premier vendredi de chaque mois en soirée inoubliable. Mata en spectacle, c'est un grand artiste québécois sur scène. Le 7 août prochain, le grand Kevin Parent sera sur place. En septembre, La Chicane avec ses plus grands succès. Le 2 octobre, un gars de chez nous, Vincent Lemire. Des soirées à ne pas manquer. Et pourquoi ne pas la combler avec votre journée de golf? Consultez la programmation sur expériencemata.ca.
Plongez dans Beast Casino, une expérience de jeu simple, rapide et immersive. Avec plus de 4400 titres, des machines à sous haut de gamme, des jeux en direct, une interface fluide et un vrai casino en direct animé par des croupiers et propulsé par Pragmatic Play Live. Visitez notre lobby de jeu pour des classiques intemporels ainsi que des nouveautés. Beast Casino offre un divertissement continu avec une sécurité de niveau professionnel. Des conditions s'appliquent, ouvertes à tous les joueurs, 18 ans et plus. Ce site vous permet de vous amuser gratuitement. Veuillez jouer de manière responsable.
Vous cherchez un VUS fiable? À un taux imbattable? Chez Action Mitsubishi de Saint-Hubert, c'est l'événement méga liquidation! Financement à partir de 0% sur l'Outlander et le RVR 2026. Jusqu'à 9 000 $ de rabais sur nos véhicules démo hybrides branchables PHEV. Garantie 10 ans ou 160 000 km incluses. En nous seulement, venez profiter de nos offres chez Action Mitsubishi de Saint-Hubert ou sur actionmitsubishi.com.
Une vraie bonne offre, c'est beaucoup plus qu'un rabais. C'est les gens qui sont derrière.
Pendant les prix employés Ford, c'est plus de 7 000 employés de Ford du Canada, dont Mathieu, qui sont fiers de partager le fruit de leur travail avec vous à prix très avantageux. Mais ça veut dire quoi ça au juste, Mathieu?
C'est le prix qu'on paye toute l'année et en ce moment, vous payez ce que nous payons.
Obtenez jusqu'à 13 625 $ en ajustement de prix totaux sur les F-150 2026 Power Boost hybride admissible. Visitez votre détaillant Ford du Québec ou Ford.ca dès aujourd'hui.
Venez goûter l'Italie. Découvrez Trebbiano au 135 rue Saint-Charles-Ouest, Vieux-Longueuil. Menu du midi, du soir, spécialité authentique, pâtes, pizza, risotto et filet mignon. Réservez vite sur restaurant-trebbiano.ca.
Passionné de soccer, préparez-vous pour une nouvelle confrontation excitante. Le CF Montréal reçoit le LA Galaxy. Ne manquez pas une minute d'action en direct du stade Saputo. Achète tes billets dès maintenant au cfmontréal.com.
Fais partie du club. Le club du matin. Jusqu'à 10 heures sur BPM Sport.
Ready?
Let's go! Touchdown!
Ready, set, BPM.
Le Focus NFL.
On poursuit notre survol des divisions dans la NFL et on commence, on continue aujourd'hui dans l'américaine avec, pour moi, la meilleure division, mais dans mon cœur. Je comprends que l'ouest de la nationale, t'as peut-être plus d'équipes de premier plan. Tu sais, t'as 3 équipes qui aspirent au Super Bowl. Le nord de la nationale, t'as 4 équipes qui peuvent faire les éliminatoires. Tu sais, t'as plus de profondeur peut-être. Mais pour moi, le nord de l'américaine, c'est la division la plus excitante. C'est celle qui se joue le football le plus pur. 4 équipes qui jouent dans le froid. C'est physique. On se déteste. Il y a des rivalités. Des fois, c'est pas très très beau à voir. Mais c'est du vrai football, comme dans le bon vieux temps, qui se joue dans cette division-là. Et c'est pour ça que je l'aime particulièrement. On va donner nos prédictions. Moi, au premier rang, je vois cette équipe-là rebondir. Après 3 saisons sans éliminatoire, ce qui est une catastrophe complète quand t'as un corps arrière comme Joe Burrow, les Bengals vont revenir et ils vont gagner le nord de l'américaine. C'est un ultimatum pour Joe Burrow et les Bengals cette année. Si ça se passe pas bien pour Cincinnati, il va dire « Échangez-moi, je veux plus jouer ici ». Et les Bengals le savent, l'organisation en est consciente. que d'encore une fois rater les éliminatoires cette année, ce serait un échec monumental. Alors Joe Burrow va débarquer le couteau entre les dents. L'état-major le sait aussi parce qu'ils ont fait des transactions pendant la saison morte pour améliorer l'équipe. Ça reste qu'en attaque. Joe Burrow, Jamar Chase et T. Higgins, c'est un des meilleurs corps arrière de la ligue avec peut-être le meilleur duo de receveurs de la ligue. Pour moi, il y a un débat, c'est Jamar Chase et T. Higgins ou est-ce que c'est les Cowboys avec George Pickens et CeeDee Lamb. Chase Brown est un bon porteur de ballon. La ligne à l'attaque est moins mauvaise que ce que les gens disent. C'est une ligne à l'attaque moyenne, je dirais. Le problème, c'est plus que Burrow a tendance à trop garder le ballon, puis c'est là où il finit par se blesser. Mais l'attaque, elle est excellente. On l'a vu l'an passé, là, c'est une des attaques les plus dangereuses de toute la ligue. La grosse question, c'est la défense. Puis c'est ce qui fait en sorte qu'année après année, cette équipe-là n'est pas capable d'être compétitive. Mais là, elle s'est améliorée, puis elle s'est améliorée big time. On est allé chercher Dexter Lawrence. Ils ont donné un choix top 10 pour aller le chercher. Dexter Lawrence des Giants de New York, c'est un des meilleurs secondaires intérieurs de toute la ligue. Il peut changer l'allure d'un match à lui seul parce qu'il est gros, il arrête la course, il est capable d'avoir un impact aussi. Aller chercher le corps arrière. Ils sont allés chercher Boye Mafe qui vient de gagner un Super Bowl avec les Seahawks. Jonathan Allen aussi, donc beaucoup plus de profondeur sur la ligne défensive. Brian Cook, un bon maraudeur. Ils ont repêché Cassius Howell. La défense des Bengals, elle peut pas faire pire que l'an passé. C'est littéralement impossible. Surtout pas avec la profondeur qu'ils sont allés chercher. Bref, avec une attaque qui pourrait être parmi les meilleures de la ligue, une défense que tu te dis, ils ont juste à être corrects. Ils ont juste à être une défense, disons, dans le deuxième tiers de la NFL. Et les Bengals, non seulement est-ce qu'ils peuvent aspirer à gagner la division, mais pour moi, si aussi Burrow est en santé, ce qui est un autre gros si, ils peuvent aspirer à gagner le Super Bowl.
Parce qu'on a l'impression que les Bengals sont un peu au bord du gouffre en ce moment. Si on n'est pas capable de réaliser une saison à la hauteur des attentes et à la hauteur de la qualité des joueurs défensifs qu'on est allé chercher, est-ce que tu penses que ça peut être la fin pour justement le monstre en trois têtes? T'sais, autant Burrow que Higgins et Chase pourraient quitter l'organisation?
Oui. Et écoute, parce que ils savent que c'est inacceptable ce qui s'est passé dans les dernières années. Tu peux pas avoir une équipe aussi talentueuse puis décevoir de façon constante comme ça. Mais ils l'ont montré par moment qu'ils sont capables d'effectuer des remontées spectaculaires. Puis ces trois gars-là, c'est jamais le problème.
Ouais.
Par la santé, évidemment, dans le cas de Burrow. Puis je suis conscient que c'est vraiment un gros si. C'est pas facile pour lui d'être en santé. Mais l'organisation le sait, ils ont été hyper agressifs. Zach Taylor le sait aussi. Moi, j'en reviens toujours pas comment ce gars-là a gardé sa job année après année, mais c'est pas un mauvais coach non plus, Zach Taylor. Il les a quand même déjà amenés au Super Bowl. Ils sont capables de le faire. Et d'après moi, ils vont regagner le nord de l'Américaine pour la première fois depuis quelques années.
Il faut
avouer. Merci, Hugo.
Plusieurs
personnes qui m'accusent de favoritisme en ce moment. Je suis très impartial dans mon analyse. Je m'en tiens aux faits.
Ouais, puis laissez le gars voter pour son équipe aussi, nous voyons.
Exact, mais je m'en tiens au fait. Autre voilà. Fait, ben, y a une autre excellente équipe dans cette division-là, les Ravens de Baltimore. Mais eux aussi, ils ont déçu l'an passé.
Mm-hmm.
Ils ont raté les éliminatoires. John Harbaugh a été congédié. On amène Jesse Minter dans l'organisation. Jesse Minter, c'est supposé être un gourou défensif. Un des meilleurs coachs défensifs de toute la NFL. Ça tombe bien, la défense des Ravens est déçoit année après année. Ils ont beaucoup de talent, mais sont blessés, puis sont inconstants, puis ça se passe jamais comme prévu. Ils sont allés chercher Trey Hendrickson des Bengals, qui est un bon chasseur de corps, mais un joueur unidimensionnel. Mais si tu lui dis, hey, va chercher le corps arrière, il est capable de le faire. La grosse question aussi chez les Ravens, c'est quel Lamar Jackson est-ce qu'on va voir? Parce que l'an passé, oui, Lamar Jackson a manqué de l'action, il a été blessé, mais même à son retour au jeu, c'était pas si impressionnant que ça. J'ai l'impression qu'il avait perdu un petit peu de son vitesse, de son intensité, de son agilité qui lui permettait d'être si dynamique que ça. La bonne nouvelle, c'est qu'il s'est énormément amélioré aussi comme passeur depuis qu'il est arrivé dans la NFL. Fait que c'est plus un gars qui te bat juste avec ses jambes. Mais quand même, Lamar Jackson va devoir jouer du meilleur football cette année. La perte aussi de Tyler Linderbaum, qui est le meilleur centre de la NFL, ça va leur faire mal. Je suis pas sûr non plus que on a vraiment les atouts autour de Lamar. Oui, Zay Flowers, c'est un très bon receveur. Est-ce que le reste, c'est assez? Je suis un peu moins sûr. Mais les Ravens vont être de retour en éliminatoire. Ça, c'est sûr et certain.
Ouais, puis je pense qu'un gars comme Derrick Henry va encore être capable de donner des bonnes verges, une bonne production offensive malgré son âge. Mais t'as raison que le point d'interrogation, c'est Lamar Jackson. Parce qu'en fait, les Ravens vont aller aussi loin que Lamar Jackson va vouloir. Puis si on est capable d'avoir le corps arrière, autant mobile que bon passeur qu'il est devenu, ça va être intéressant. Mais c'est vrai qu'on doit être capable de créer un équilibre dans son jeu. Parce que, tu te souviens, il y a quelques années, quand Lamar ne courait moins, on se demandait ce qui allait se passer avec ce gars-là. C'est comme s'il avait pris un 180. Ses performances étaient vraiment décevantes. Là, c'est sûr, avec l'arrivée de Trey Hendrickson, ça donne une petite bougie d'allumage défensivement. Mais il va falloir aussi que des gars comme Zay Flowers gagnent en maturité. Moi, je trouve que ce gars-là, il est excellent, il a une belle personnalité, il rajoute au spectacle de la NFL 100%, mais il doit être mature dans son jeu, il doit être vraiment un leader. C'est ce qui va faire en sorte... C'est l'unicité qui va faire en sorte que les Ravens se rendent loin en séries éliminatoires. Puis ça va être une belle opportunité pour Jesse Minter d'établir son système de jeu tout de suite.
Ce qui est fou avec les Ravens, c'est quand tu regardes un gars comme Derrick Henry, qui même à son âge, là, écoute, il est rendu à 31 ans, ben là, il est rendu à 32, mais il avait 31 ans la saison passée, puis il a quasiment couru pour 1600 verges.
Ben c'est ça.
À une époque où on se dit, hey, des porteurs de ballon, après le premier contrat, ça peut être difficile. Derrick Henry, là, écoute, il est rendu dans la trentaine, puis c'est encore un des meilleurs de toute la ligue.
Il est incroyable. C'est un bulldozer, ce gars-là.
T'as le potentiel d'avoir un monstre à deux têtes incroyable avec Lamar Jackson. Au troisième rang, moi, j'ai une équipe qui s'est qualifiée l'an passé en éliminatoire, oui, mais ils ont été chanceux. Justement, parce que ça a été la déroute autant à Cincinnati qu'à Baltimore, les Steelers de Pittsburgh, qui n'étaient pas une équipe de football si bonne que ça, là. Ils ont fini 17, ils ont gagné la division, mais c'est parce que les autres se sont tirés dans le pied toute la saison. Bref, malgré tout ça, Mike Tomlin a perdu son poste, Mike McCarthy débarque. Seulement le quatrième entraîneur-chef pour les Steelers depuis 1969. C'est l'organisation la plus stable de toute la NFL. Des coachs, là, on les garde pendant longtemps.
Ah ouais.
C'est comme des fonctionnaires. Tu ne vas pas perdre ta job si t'es coach des Steelers. Mmh. Mais là, ça va être quoi les attentes envers Mike McCarthy? Un gars qui a eu du succès à Green Bay, il a gagné le Super Bowl. À Dallas, correct. Les a peut-être pas amenés au sommet qu'on aurait espéré. Mais là, il retrouve son bon vieux chum Aaron Rodgers avec, oui, ils ont connu énormément de succès ensemble, mais ça a mal fini.
Ouais.
Ça a mal fini entre les deux. Ça a été un divorce très difficile entre les deux. Ça a mené au départ de McCarthy. Là, Rodgers, vu que c'est sa dernière année, il est rendu un petit peu peace and love. Il dit qu'il est vraiment heureux de retrouver son chum Mike. À quoi ça va ressembler la relation entre les deux? Rodgers, je vous le rappelle, est rendu à 42 ans, a énormément ralenti physiquement. Il bouge plus comme avant.
Mm-hmm.
Il a pas le bras pour lancer le ballon en profondeur. Tu regardes les passes d'Aaron Rodgers l'an passé, là, c'est des petites passes, puis on demandait à nos receveurs de courir par la suite. Fait que c'est une attaque qui est limitée. J'ai aimé l'addition de Rico Dowdle, un des bons porteurs de ballon de la NFL. Michael Pittman aussi va être un bon numéro 2 derrière DK Metcalf. Mais j'ai de la misère à me ranger derrière une équipe qui est vieille. Là. Aaron Rodgers est vieux en défense. Cam Hayward est vieux. TJ Watt est plus ce qu'il était il y a quelques années. Moi, je prends cette équipe-là des Steelers avec un grain de sel et pour moi, pour la première fois depuis très, très longtemps, elle va jouer sous la barre des 500.
C'est quand même difficile à croire, mais c'est vrai. On dirait que quand tu penses à une équipe justement constante, c'est les Steelers, toujours capable de sortir des résultats quand même impressionnants malgré des atouts qui sont peut-être moins présents. Il va avoir beaucoup de pression sur Mike McCarthy, comme tu l'as dit, parce que il va avoir aussi moins d'atouts un peu que lorsqu'il était à Dallas. T'sais, on a beaucoup de pression sur Aaron Rodgers. Puis ça fait en sorte que ben le gars, il est à risque de blessure. On l'a vu dans les dernières années aussi. Il est plus vieux. C'est plus le même style de joueur. Par exemple, c'est vrai que l'ajout de Michael Pittman va aider. Parce que là, au moins, on a de la diversité. On va être capable d'aller chercher plus d'alternatives. Mais encore une fois, tu sais, c'est des gros gars, c'est des gars importants. Est-ce que c'est des gars qui sont reconnus pour leur course? Mais peut-être moins.
Non, c'est ça.
C'est ça qui va faire peur un peu. Surtout si on élabore ce système de jeu-là. Donc effectivement.
C'est vraiment une équipe qui a un plafond limité.
Ouais, ouais,
tu sais, contrairement aux Bengals ou aux Ravens, que tu dis, écoute, ils ont tellement de talent, ils pourraient gagner 15 matchs, ça ne surprendrait personne.
Ouais.
À Pittsburgh, là, on va être chanceux si on en gagne 9. Avec cet alignement-là qu'on a présentement, c'est une organisation qui s'assoit depuis trop longtemps sur sa réputation, sur ci, sur ça.
Mais ils vont frapper un mur, là.
Mais éventuellement, ils vont frapper un mur. Si ce n'est pas cette année, ce sera dans les prochaines. Vous aurez deviné au dernier rang. Ça donne donc les Browns de Cleveland. On ne sait pas ça va être qui leur carrière encore. Ça va-tu être Shedeur Sanders? Ça va-tu être Deshaun Watson d'une manière ou d'une autre? Ben, je ne suis pas convaincu par aucun des deux. Deshaun Watson, c'est atroce. Pas juste l'être humain, là, mais le joueur de football atroce depuis qu'il est arrivé à Cleveland. Shadow, c'était correct l'an passé, mais c'est une équipe qui a des jeunes porteurs de ballon, des jeunes receveurs de passe qui, oui, pourraient être bons, mais ça risque de prendre quelques années avant que ça débloque. Tu viens de perdre Myles Garrett, qui est de loin le meilleur joueur de ton équipe, de loin le meilleur joueur de l'histoire de ta franchise. Jared Verse est bon, mais il est même pas proche de Myles Garrett. C'est une équipe qui manque beaucoup d'expérience. Je vois pas comment les Browns vont pas terminer quatrième de cette division-là.
Ouais, c'est beaucoup de points d'interrogation, c'est beaucoup de départs lourds. Mais encore une fois, c'est puis on sait depuis le début là, que les Browns, ça a jamais été... C'est jamais facile, en fait. C'est jamais facile. T'as pas grand-chose à dire à part est-ce qu'à un moment donné, cette équipe-là va trouver une ligne directrice? Ouais. Parce qu'il y en a pas, là.
Non, c'est ça. C'est l'exemple parfait d'une organisation qui est mal gérée en haut, le propriétaire Jimmy Haslam, et ça découle jusqu'en bas, puis tu dis, écoute, je sais pas comment cette équipe-là va se sortir de sa torpeur.
Ouais, pour vrai.
On va maintenant y aller d'un sport flash avec Hugo Reich.
Sport flash.
Onion de Cincinnati, Alexander Zverev a remporté son affrontement en deux manches identiques de 7-6 face à Terence Atman. Raphaël Jodor, mon nouveau préféré, a aussi remporté son match face au Chilien Alejandro Tabilo en deux manches de 6-2 et 6-1. Chez les femmes, Elena Rybakina, Iga Świątek et Jessica Pegula ont toutes remporté leur affrontement. Et les deux sœurs Williams, eux, qui faisaient tournoi en double, ont été éliminées aussi. Félix Auger-Aliassime lui joue ce soir face à l'Argentin Juan Manuel Cerundolo. Dans la NBA, il y a du nouveau dans le dossier Kawhi Leonard. La NBA n'aurait pas trouvé aucune preuve des Clippers et de Steve Ballmer concernant Kawhi Leonard et les ententes de commanditaire. À cette heure, ce qu'ils veulent, c'est rechercher si les Clippers auraient présenté Kawhi Leonard à des commanditaires. Donc on prend un autre tourneur.
Ben c'est un peu compliqué parce que ESPN est sorti avec cette information-là hier et là la Ligue l'a démenti publiquement en disant c'est pas vrai, il y a plein d'erreurs dans leur reportage, fait qu'on sait plus qui dit vrai, exact. Qui dit pas vrai. C'est une saga qui est vraiment compliquée, puis c'est une patate chaude pour la NBA. D'ailleurs, dans à peu près 50 minutes, on va en parler avec Charles Dubébret, analyste du basketball à RDS. Il va pouvoir nous éclaircir par rapport à tout ça et parler de plein d'autres sujets dans le monde du basketball.
Ouais, exactement. Donc ça va être un dossier qui va être intéressant à suivre, encore une fois, là, que... Ça sème la controverse, puis on sent qu'on veut venir à bout là, de ça. On sent que la NBA est surtout très impatiente par rapport à ce dossier-là.
Oui, parce que Steve Ballmer, c'est leur propriétaire le plus riche. Kawhi Leonard, c'est une vedette aussi. Et la Ligue paraîtrait très mal si jamais on trouve qu'il y a des preuves de contournement du plafond salarial. Comme vous le savez, c'est la saison estivale chez Lexus Laval. C'est le moment idéal pour découvrir les VUS Lexus les plus populaires et tout le savoir-faire de la marque. Profitez de crédits à la livraison allant jusqu'à 3 000 $ sur certains modèles sélectionnés. Passez en concession dès aujourd'hui et vivez l'expérience Lexus. Roulez avec nous, roulez en Delary. On va prendre une courte pause. Et au retour, ce sont les séries éliminatoires des moments marquants du Canadien. Un moment qui est arrivé cette année et un moment dont on va se rappeler pour le restant de nos jours. Ça s'en vient dans 2 minutes.
Transformez votre journée en jour de casino. Jouez au jackpot, jeux de table en direct et plus. Découvrez les machines à sous les plus populaires comme Book of Dead et Immortal Romance. Ou jouez à la roulette, au blackjack et bien d'autres à Casino Days. Ouvert à tous les joueurs 18 ans et plus, ce site vous permet de vous amuser gratuitement. Veuillez jouer de manière responsable.
Vous voulez partir pour Québec, Boston ou même Vancouver? Que ce soit avec ton équipe de hockey ou pour un voyage d'affaires, faites confiance à Autocar Janois. Autocar de luxe, minibus et navette, peu importe la destination. Réservez dès aujourd'hui. Au 514-390-8935.
Venez goûter l'Italie. Découvrez Trebbiano au 135 rue Saint-Charles-Ouest, Vieux-Longueuil. Menu du midi, du soir, spécialité authentique, pâtes, pizza, risotto et filet mignon. Réservez vite sur restauranttrebbiano.ca.
Salut, c'est Tony.
Prêt pour une expérience mémorable à New York avec Voyage Gendron du 21 au 23 août?
On ira voir les Blue Jays contre les Yankees et découvrir la grosse pomme.
Le forfait à partir de 695 $ par personne en occupation double comprend
transport en autocar de luxe, 2 nuits d'hébergement, 2 petits déjeuners,
ton billet pour la partie,
tour de ville guidé et du temps libre pour explorer New York.
C'est l'aventure parfaite pour les amateurs de sport. Va sur gendrontour.com.
Dans vie, c'est important d'avoir un assureur qui se surpasse pour ses clients. Comme Intact Assurance qui vous rappelle que son concours où vous courez la chance de gagner 100 000 $ prend fin bientôt. Faire une soumission auto ou habitation suffit pour participer. Déjà client Intact. vous êtes automatiquement inscrit.
100 000, Patrick! J'ai déjà les doigts croisés!
Pas besoin. Une soumission avec Intact suffit.
Pis si je touche du bois dans un champ de trèfle à quatre feuilles?
Faire une soumission, c'est plus simple que ça. Visitez Intact.ca, complétez une soumission et courez la chance de gagner 100 000 $. Le concours prend fin le 31 août 2026. Des conditions et exclusions s'appliquent.
Allô?
Marie-Lou, toi qui es porte-parole, j'imagine que tu peux avoir des bons prix sur une Hyundai neuve.
Ah, c'est sûr, surtout pendant l'événement Repartez en Hyundai.
Ah, mais qu'est-ce que tu pourrais m'avoir?
Ben, jusqu'au 31 août, je peux t'avoir aucun paiement pendant 90 jours sur l'Elantra ou le Venue, un financement à partir de 0,99%, un boni jusqu'à 1 000 $ sur modèle sélectionné et la garantie limitée sur les véhicules neufs de 5 ans.
OK, t'es vraiment une chum.
Ouais, c'est un peu pour tout le monde, par contre. Hein? Des conditions s'appliquent, visitez HyundaiCanada.com.
Rends-toi à job avec ta première ligne d'attaque. Le Club du matin. Jusqu'à 10 heures sur BPM Sport.
Les séries éliminatoires des moments marquants du Canadien depuis 2000. Tous les jours à cette heure-ci, on revient sur un moment qui a marqué les 26 dernières années du Canadien. On y va avec le moment du jour.
On voit la Suzuki. Caulfield s'avance.
Le 9 avril 2026, Cole Caulfield marque enfin son 50e but de la saison au Centre Bell de surcroît dans une victoire de 2-1 du Canadien face au Lightning de Tampa Bay, devenant ainsi le premier joueur de l'équipe depuis Stéphane Richer en 1990 à le faire, seulement le 7e joueur de l'histoire du Canadien de Montréal à inscrire 50 buts. Écoute, je me rappelle, j'ai eu la chance, j'étais au Centre Bell pour ce moment-là, puis j'ai eu des frissons, là. C'était comme... On savait qu'on assistait à de quoi d'historique, c'était tellement spécial comme moment.
Ça a dû être une des ovations les plus particulières dans l'histoire du Centre Bell. Écoute, 50 buts, on dirait que c'était quasiment un plateau intouchable pour Cole Caulfield, parce que... Il n'avait même pas encore atteint la marque des 40 buts. On disait souvent que ça allait être un marqueur de 40 buts.
Il y avait du monde qui s'amusait à dire que Cole Caulfield, c'était le meilleur marqueur de 50 buts qui avait jamais marqué 30 buts.
Exactement. Et là, finalement...
Parce que celle d'avant, il en avait... c'était sa première saison de 30 buts en carrière.
Exactement. Et là, éclosion totale. On a réalisé aussi, je crois, à quel point Cole Caulfield était un joueur talentueux, parce que l'année dernière... C'est pas seulement servi de son tir redoutable. Il y a eu des moments d'intelligence où il a vraiment battu les gardiens de but, de rapidité, de vitesse, a réussi à comprendre l'espace dans lequel il était pour concrétiser, et honnêtement, ça a été sensationnel. On voit la hauteur de son talent, on voit à quel point c'était un contributeur important pour le Canadien la saison dernière. Il va l'être encore cette année, il va être très, très, très important cette année, mais pour ce qui est de l'histoire... Je trouve ça très beau que le 50e but de Cole Caulfield fasse partie de certaines marques établies par des nouveaux joueurs de la nouvelle génération du Canadien pour les années à venir.
Ah oui, parce que ça se faisait attendre. Là. Je l'ai dit, Stéphane Richer en 90, puis entre-temps, t'as eu des marqueurs de 40 buts, mais t'as personne qui a été proche de 50. On a jamais senti qu'on avait vraiment un franc tireur capable de le faire à ce niveau-là. Il le fait, puis t'as raison, Caulfield... a vraiment développé d'autres cordes à son arc cette année, être capable de marquer de différentes façons. Puis il y avait tellement d'anticipation avant qu'il atteigne cette marque-là. Il sort après la pause olympique et il est tout feu, tout flamme. 17 buts en 17 matchs, Cole Caulfield, ça l'a apporté à 49 buts en 74 matchs. Il avait manqué un match, là.
Ouais.
Mais ça voulait donc dire qu'il avait besoin de 7 matchs, un seul but. Mais là, il en fait 3 de suite sans marquer. Tout le monde capote. Tu le vois, exact. Ses coéquipiers le cherchaient tout le temps sur la patinoire. Clairement, ça jouait aussi dans la tête 100%. À Caulfield. Parce qu'il sait, là, qu'est-ce qui se passe. Mais il le fait dans le plus beau des moments, parce que c'était à Montréal. Il y avait ses parents, ses amis qui étaient sur place. C'était l'histoire parfaite.
Exact. Puis c'était un but parfait. Un but à la Cole Caulfield. Ouais. Ça a été un lancer franc qui a battu André Vasilevski. Il n'y avait pas d'écran. C'était vraiment le joueur, le tir contre le gardien de but. Puis il a réussi à marquer contre lui. Honnêtement, c'était tout un moment.
Puis tu sais, pas un seul but dans un filet désert, ça rend l'exploit encore plus impressionnant.
Ça aussi, c'est vrai, là, faut le considérer, ça. Le gars a jamais marqué dans un filet désert de l'année. C'est fou, là.
Je sais qu'il y a du monde qui disent Ah, dans le Maurice Richard, ça devrait pas compter les buts dans un filet désert. Non, parce que ça fait quand même partie du hockey. Mais dans la pondération des buts au hockey, on s'entend qu'il y a des buts qui sont plus impressionnants à marquer
ben
que d'autres.
Oui.
Là.
C'est sûr.
Un but en infériorité numérique, c'est plus difficile à marquer qu'un but dans un filet désert. Fait que, y a, pas tous les buts sont égaux. Un
exact.
But gagnant, c'est pas la même signification qu'un but quand tu mènes 6-0 le match.
C'est ça.
Puis aussi, il faut le dire, là, le call, la description de Pierre Houde,
en a été
légendaire.
Très, ouais. Elle était très bonne.
C'est une légende de l'industrie qui décrit un moment légendaire comme ça. C'est difficile de demander mieux. Puis 10 sur 10 à plus, 100% la note pour Pierre-Houd par rapport à ça. Là, vraiment, on va s'en rappeler. La description aussi, on
ben
va
oui.
s'en rappeler encore.
Quel moment.
Pendant très, très longtemps. Maintenant, la prochaine étape pour Cole Caulfield, il faut qu'il connaisse des meilleures séries que celles de l'an passé.
C'est ça. Là, ça va être cette constance-là. Mais je pense que... on est vraiment arrivé au bout du rouleau pour lui lorsqu'il a marqué ses 50 buts. On sentait vraiment que on avait puisé toute l'énergie du réservoir. Mais effectivement, là, c'est d'être capable d'être autant performant en séries éliminatoires. Il va être capable. Je sais qu'il va être capable. C'est un gars qui a
ben
pas
peur. Montré dans le passé.
C'est ça, c'est un gamer, Cole Caulfield. Il va être capable de le faire. Donc, on va le voir de cette année. Si le Canadien est capable de se qualifier pour les séries de manière définitive.
Exact. Dans une douzaine de minutes, c'est Nicolas Saint-Pierre qui s'installe. Nicolas va y aller de ses prédictions osées en vue de la prochaine saison dans la LNH. J'ai hâte de l'entendre par rapport à ça, mais avant, c'est le dugout parce que dans deux minutes, on va parler de la journée d'hier dans le baseball majeur PCA et Shohei Ohtani qui se livre encore une bataille formidable pour le titre de MVP, un des meilleurs joueurs de la Ligue qui a abandonné son équipe. Qu'est-ce qui s'est passé au juste? On vous raconte tout ça dans deux minutes.
On l'a attendu tout l'été.
Là, le CH devrait bouger bientôt. On attend l'acquisition du Canadien. Ça risque d'être gros.
Le fameux move de Kent Hughes.
Salut, Kent, c'est Gilbert. Tabaslack, écoute, nous autres, la PPM, on est plus capables d'attendre, là. Peu à peu près, on y va. Nous autres, on move.
Dès le 31 août, ton starting line-up de retour. Deso, Marcotte, Gilbert, Georges, Gonzo, Greg, Ben, Max, FX, Oli et le CH. Prêt à nous redonner des frissons comme la dernière saison.
Suzuki. Oh, voilà Suzuki. A step. Caulfield. Caulfield s'avance. Et Richard score. Let's go.
Headman's the puck. Shot. Score.
Dès le 31 août, pendant que toutes les autres stations vont parler de politique...
Voilà que tout le monde vote.
Mon droit de vote.
Moi, je vote. Moi, je vote.
BPM a déjà gagné ton vote.
Moi, je choisis.
La seule radio à pas jouer la cassette.
Moi, je choisis.
La seule radio avec plus d'opinion, plus de débats, plus de CH, plus de fun.
En tout cas, moi, je vote BPM.
BPM.
Ici Dominique Fugère, directeur général du Grand Prix de Trois-Rivières. Grâce à Paillé, concessionnaire GM numéro 1 au Canada depuis 10 ans, j'ai la chance de vous parler NASCAR Canada. Soyez là pour tout savoir sur les actualités de vos pilotes favoris au Canada, y compris celles de Marc-Antoine Caméra et Andrew Ranger de l'équipe Paillé Course Racing. Chaque lundi et vendredi, des week-ends de course, 9h18.
Il existe une version de vous qui se lance, qui échange ses points aéroplan aujourd'hui, qui réserve le week-end dont vous parlerez pendant des semaines, ou le voyage en Europe qui vous tente depuis des années, qui échange ses points pour louer la décapotable, qui réserve la chambre avec vue. La version de vous qui a juste arrêté d'attendre. Avec les points aéroplan, ça devient possible. Échangez vos points aéroplan afin d'économiser jusqu'à 25 % sur les vols d'Air Canada. Visitez aircanada.com dès maintenant. Les conditions s'appliquent.
Contracteur peintre, gagnez du temps et de l'argent avec Chez le peintre, l'entrepôt de peinture Sico Expert. Ça fait 50 ans qu'on le chante.
Sico, Sico par-ci, Sico, Sico par-là. On donne tout ça, Sico, Sico par-ci, par-là.
Un stock immense, des prix imbattables et une expertise sur mesure pour vos chantiers. Besoin de peinture là, maintenant? Nous, on est constamment en série. On livre dans un rayon de 75